Chapitre 13e, au banc de supplice. À Melun, la bande de touristes débarqua. Mais Martin Dumas et Prosper n'étaient plus ficelés. Les tenir ainsi, c'eût été éveiller la curiosité et, par trop de précautions, perdre tout le bénéfice de l'aventure. Le commandant avait prévu le cas. Il connaissait d'autres moyens aussi bons pour garder ses prisonniers sans être obligé de leur mettre des chaînes. Ce moyen, il l'employa ici. D'abord, comme il ne fallait en aucune façon qu'il se compromît, même aux yeux des employés de la gare, à peine le train arrêté, il sauta prestement sur le quai. Grave, digne, la barbiche rude, la boutonnière piquée d'une rosette rouge, en jaquette sanglée, pantalon tombant sur des gâtres clairs, tenue de vieux militaire portant beau, il s'avança, rendant militairement quelques saluts à des troupiers reconnaissant lui un chef, un général en civil, et il sortit entre les voyageurs, ne semblant en aucune façon s'être mêlé avec les touristes, pas même les connaître. Il monta dans un taxi et donna une adresse au chauffeur qui partit aussitôt. Les touristes descendirent à leur tour du wagon qu'ils occupaient. Deux d'entre eux tenaient par les bras Martin Dumas. Ayant peine à marcher, la tête pendant sur la poitrine, les bras ballants, les jambes en chiffon. Deux autres venaient ensuite qui soutenaient Prosper dans le même état. Sur leur passage, les gens riaient, échangeaient des plaisanteries faciles sur la soif des Anglais, leur façon de célébrer la dive bouteille. Pour tout le monde, les deux hommes que leurs camarades portaient ainsi étaient des ivrognes, des buveurs de cocktails, de whisky, qui avaient absorbé de leur liqueur favorite plus que de raison. Ce groupe singulier, demeurant impassible sous l'averse des quolibets, sortit de la gare. Il se divisa et monta dans deux taxis. Au chauffeur, on donna la même adresse que celle que le commandant avait déjà donnée au sien. Il fallait, pour arriver à l'endroit désigné, traverser une partie de la ville. Les voitures s'arrêtèrent devant une maison quelconque, dans une rue assez peu fréquentée qui finissait presque au bout de la ville. Les touristes descendirent et tirèrent de la voiture Martin Dumas et Prosper, qui ne semblaient pas encore dégrisés. On les soutint par le bras, comme tout à l'heure, afin de leur faire accomplir un bout de chemin. Puis tout le monde tourna l'angle de la rue et s'enfonça dans une rue plus étroite, plus sombre, comme il s'en trouve dans les vieux quartiers des anciennes cités. Dans cette rue, une ruelle à peine, plutôt un coupe-gorge, les trottoirs n'existaient qu'à l'état rudimentaire. Le pavé, tout disjoint, disait que l'on se souciait peu de le rendre commode pour le charron ou les voitures. Et comme elle se terminait par deux grosses bornes et une chaîne de fer qui faisait d'elle une sorte de cul-de-sac, il est probable que jamais voiture d'aucune sorte n'y avait pénétré. Aucun magasin, à peine quelques boutiques louches où l'on donnait à boire. Des fenêtres barrées de fer indiquaient le peu de confiance des habitants vers les gens qui pouvaient passer par cette rue. Pas de monde sur le pas des portes. Personne aux croisées. C'était la rue aux allures moyenâgeuses où l'on pouvait très facilement commettre un meurtre, assassiné en toute tranquillité. Le crime était ici, chez lui. Le cadre était fait pour lui. Dans cette rue sinistre, la troupe s'engagea à coup sûr. Elle s'arrêta devant la porte d'une maison comme toutes ses voisines, sale, lépreuse, couverte de verre, de mousse humide. Cette porte était entr'ouverte. Les touristes pénétrèrent dans la maison. Derrière eux, la porte se ferma, roulant sur ses gonds avec un grincement de fer rouillé. Et l'on entendit le bruit d'une barre de fer qu'on tirait en place de cadenas, de clés. On fit monter à Martin Dumas et à Prosper quelques marches d'un escalier étroit, gluant, sale et glacial. Alors on les poussa sans ménagement. On avait fini de les soigner comme jusqu'ici devant les yeux des curieux à qui on voulait faire croire qu'il s'agissait de deux camarades gris qu'on ramenait. C'était maintenant deux prisonniers qu'on commençait à traiter en prisonniers. Et ces prisonniers étaient des détectives, le roi des détectives, le terrible Martin Dumas, et son plus précieux second, Prosper. Ceux qui les tenaient étaient les pires bandits. Des bandits qui avaient à venger bien des défaites et la capture toute récente de deux de leurs meilleurs compagnons. On fit entrer les prisonniers dans une pièce assez vaste qui n'avait qu'une fenêtre. Cette fenêtre ne comportait pas de persiennes, mais des volets en bois épais et consolidés avec une armature de fer. Pour tout meuble, une table en bois noir, quelques chaises et au milieu de la pièce, un banc. Devant la table se trouvait assis le commandant. La pièce était éclairée par des lampes électriques tenues dans des supports accrochés au mur et garnies de réflecteurs, faisant tomber leur clarté sur le banc qui était au milieu de la pièce. Les murs semblaient fort épais. On avait cette impression que l'on pouvait crier, hurler, appeler au secours dans cette pièce, sans que les cris puissent passer à travers ces murs. Rien ne devait transpirer au dehors. C'était un tribunal. Un tribunal qui serait en même temps salle de bourreau, chambre de questions et antre de torture. Elle était sinistre, épouvantable. Les bandits, en pénétrant dans cette chambre, gardèrent tout à coup le silence le plus absolu. Ils venaient, selon leur grade sans doute dans l'association, se placer de chaque côté du commandant. Ainsi le commandant donnait l'idée d'un juge entouré de ses assesseurs. Et l'on se serait cru devant un tribunal secret, tel qu'on en vit aux temps héroïques des grandes passions politiques ou religieuses, aux époques de troubles, de haine, de pillage. Le commandant fit un signe. Les hommes qui tenaient Martin Dumas et Prosper les conduisirent jusqu'au banc qui se trouvait au milieu de la pièce et les firent asseoir. Deux hommes restèrent seulement, l'un derrière Martin Dumas, l'autre derrière Prosper, pour les tenir encore. Sans cela, ils se fussent écroulés à terre. « Faites-les revenir, » dit seulement le commandant. Deux hommes sortirent de la pièce. Puis ils revinrent peu après, tenant un bol et une serviette. Dans le bol, il y avait une sorte de liquide dont l'arôme très vif piquait comme un acide. Ils frictionnèrent alors les tempes des prisonniers avec la serviette formant tampon, imbibé de ce liquide dont la senteur âcre emplissait la pièce. Presque aussitôt, Martin Dumas et Prosper semblèrent arrachés brusquement à un profond sommeil. Ils ouvrirent les yeux, les portèrent étonnés autour d'eux. Ils ne pouvaient rien voir car les rayons des lampes, convergeant, arrivant sur eux, les aveuglaient comme des projecteurs. Mais peu à peu, ils se ressaisissaient, retrouvaient leur sens. Et ils pouvaient comprendre enfin l'horreur de leur situation, deviner en quelles mains ils étaient tombés. Mais, s'ils se trouvaient eux dans un noyau de lumière, dans un centre de clarté éblouissante, tout autour d'eux, c'étaient les ténèbres les plus profondes, comme un cercle noir que leurs yeux éblouis ne pouvaient percer. Comprenant que tout effort pour cela demeurait inutile, Martin Dumas et Prosper baissèrent la tête et gardèrent les paupières fermées. Mieux valait attendre d'avoir recouvré leur force, leur agilité, la faculté enfin de combattre avec quelque chance. Le moyen que le commandant employa pour mater le roi des détectives et son fidèle Prosper, pour les garder prisonniers, les tenir bien à sa merci, sans toutefois éveiller les soupçons du public, la simple curiosité des badauds, était tout bonnement celui que voulut tenter le si obligeant voyageur quand il fit avec moi le trajet de Paris à Bois-le-Roi. À moi, voyageur Courville, on me donna une cigarette, que de bonne volonté je devais fumer en remerciant celui qui me l'offrait. Mais on ne pouvait de même prier Martin Dumas et Prosper de prendre un cigare, d'autant plus que l'on avait eu soin de leur passer tout d'abord un baillon sur la bouche en même temps qu'on les attachait. Mais le commandant fit mieux. Cet homme était vraiment un bandit bien moderne. Il employait dans son forfait les moyens que la science met aujourd'hui à la disposition de ceux qui font appel à elle pour le bien de l'humanité. Pendant qu'on tenait les prisonniers, qu'on les gardait immobiles, le commandant sortit une seringue de Prava de son étui. Il vissa au bout l'aiguille, puis il puisa dans un petit flacon. Un de ses hommes tira en haut la manche de Martin Dumas, mit à nu son avant-bras. Le commandant piqua l'aiguille de la seringue et fit une injection sous-cutanée du liquide contenu dans le petit flacon. Il fit la même opération à Prosper. Puis, précieusement, il rentra son petit instrument dans son étui, ferma le petit flacon, glissa le tout dans une trousse qu'il mit dans la poche intérieure de sa redingote. Pendant 2 ou 3 minutes, il guetta sur les prisonniers l'effet de sa piqûre. Les yeux de Martin Dumas et de Prosper, tout d'abord, brillèrent d'un feu étrange. Les pupilles s'agrandirent comme quand il s'agit d'empoisonnement par les alcaloïdes. Puis les paupières alourdies, devenues bleues, se fermèrent. Et une sorte de léthargie s'empara d'eux. C'était ce que voulait le commandant. Il eut ainsi 2 hommes qui se trouvaient plus en sa possession que s'ils avaient été entourés de chaînes de fer. 2 hommes sans force de résistance, sans volonté. On eût dit vraiment, si l'image n'est pas un peu forte, 2 cadavres à peine galvanisés qui pouvaient remuer encore les jambes. Il n'en fallait pas davantage au commandant pour que ceux qui verraient passer ces 2 malheureux fussent certains qu'ils étaient vivants. Et comme la foule simpliste suit son impulsion première et se laisse guider par ses yeux, la foule, En voyant ces deux hommes titubés, soutenus avec peine par ceux qui les accompagnaient, la foule riait à leur passage, comme devant des hommes ivres. À présent, ces deux hommes qui avaient fait rire en venant jusqu'ici se trouvaient en face d'un tribunal de bandits. Par précaution, le commandant, avant qu'on les réveillât, avait fait par ses hommes attacher au banc sur lequel ils étaient assis Martin Numa et son second, Prosper. Alors, élevant la voix, le commandant parla. « Mes amis, nous avons été hier frappés d'un grand chagrin. Les jours se suivent et fort heureusement ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous pouvons goûter la plus grande joie. Hier, deux de nos meilleurs et plus hardis camarades, en accomplissant un acte d'héroïsme, sont tombés victimes de leur courage. Ils avaient assumé la dangereuse mission de nous débarrasser de notre plus terrible ennemi, Martin Numa. Nos deux camarades peuvent être considérés comme perdus pour nous. » Après un court silence, le commandant reprit. « Mais nos braves et regrettés camarades ne devaient pas attendre longtemps leur vengeance. Aujourd'hui, celui qui allait se faire leur bourreau, Martin Numa lui-même, est tombé à son tour dans nos mains. Et avec lui, nous tenons Prosper, son plus fidèle, son plus utile lieutenant. Vous le voyez, mes amis, nous avons la vengeance belle et grande, la revanche. » Pendant que le commandant parlait, Martin Numa et Prosper, toujours tenus sous l'éclat des réflecteurs, gardaient baissées leurs paupières. Ils écoutaient, impassibles, immobiles, et comme si dans tout ce qu'ils entendaient, il n'y avait pas un mot qui les concernât. Au bout d'un court moment de silence, le commandant reprit la parole. Il s'adressa directement alors au roi des détectives. « Martin Numa, tous ceux qui sont entrés dans cette maison n'en sont sortis vivants qu'après avoir cédé à nos demandes. » Il ajouta en élevant la voix. « Martin Numa, tous ceux qui se sont trouvés assis au banc où vous êtes n'ont été détachés qu'après avoir répondu à toutes nos questions. » Martin Numa, quand on refuse de parler, nous avons le moyen de faire sortir les mots des lèvres les plus fermées. » Comme Martin Numa et Prosper ne bougeaient pas et gardaient leur immobilité, le commandant reprit. « Vous devez commencer à me connaître. Cependant, avant de passer aux moyens extrêmes, avant de vous forcer à parler, nous tenons, mes amis et moi, à faire preuve d'humanité. » Ces mots semblaient, dans cette situation, pleins d'une atroce ironie. Nous vous engageons à parler de bonne volonté et à faire, sans y être contraints, ce que nous désirons, ce que nous attendons de vous. » Le commandant ajouta. « Vos mains sont libres, Martin Numa. On va poser devant vous du papier et de l'encre. Vous allez écrire au directeur de la prison où vous avez fait enfermer nos camarades de vouloir bien mettre immédiatement en liberté ces deux prisonniers. » Sur un signe du commandant, un homme poussa devant Martin Numa une petite table garnie d'un sous-main, d'un buvard et d'un stylographe. L'homme tira du sous-main du papier à lettres et le disposa devant Martin Numa. « Écrivez, » dit le commandant. « Un de mes hommes portera votre lettre et nous donnera la réponse. Je dois vous dire que vous demeurez ici jusqu'à ce qu'on ait fait droit à notre désir. » Alors Martin Numa, faisant un effort sur lui-même, put répondre. « Je ne comprends pas un mot de tout ce que vous nous dites. » « Eh bien, » répliqua le commandant, « je vais répéter encore une fois. » Le commandant se répéta. Martin Numa secoua la tête. « Je ne comprends pas davantage. Vraiment, c'est malheureux, car nous allons être obligés de vous ouvrir l'entendement en vous secouant un peu les pieds. » Le commandant fit un signe. Un des hommes qui se trouvait debout à l'une des extrémités de ce banc appuya alors sur un levier. On entendit un craquement de bois. En même temps, Martin Numa et Prosper poussèrent un cri de douleur. La corde qui retenait leurs chevilles au banc fut serrée par un appareil, et en rétrécissant, elle tirait sur les pieds des prisonniers, les appuyait contre la barre du banc de telle façon que les pieds étaient tordus, broyés, et que la douleur atroce permettait de croire qu'ils allaient être brisés, détachés des jambes. Cette pression dura quelques secondes à peine. Il sembla aux malheureux que leur supplice était infini. Sur un signe du commandant, l'homme qui manœuvrait le levier et qui tenait le rôle de bourreau détendit le levier et donna du jeu aux cordes. « Ce n'est, dit tranquillement le commandant, ce n'est que la plus petite question, le plus doux engagement, presque une formule de politesse pour amener une réponse. Jugez des autres. » Il dit encore, « Voyons, voulez-vous écrire ? La douleur semblait avoir rendu tout à fait conscience d'eux-mêmes aux deux prisonniers. Alors Martin Huma éleva les bras et tapa des poings sur la table posée devant lui.
« Ah ça, mais nous croyons rêver, mon ami et moi. Nous nous demandons si nous ne sommes pas le jouet d'un cauchemar. »
Le commandant ricana.
« Tâtez vos jambes, vous verrez que tout cela est réel. »
« Réel, oui, nous le sentons que trop.
Mais ce qui nous paraît fantastique, c'est que cela soit en réalité. »
« Très amusant comme réplique. »
« Car enfin, pourquoi vous êtes-vous emparé de nous? Pourquoi nous tenez-vous sur ce banc? Pourquoi nous torturez-vous »
« Charmant, » s'écria le commandant.
« Il le demande. »
« Oui, je le demande, de quel droit ?»«
Du mien. » « Pour quelle raison? Dans quel but ?»«
Pour cette raison que nous voulons la liberté de nos camarades. »
Dans le but de nous défaire enfin de notre ennemi.
De votre ennemi? Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne vous connaissons pas. Nous ne vous avons jamais vu avant notre départ de Fontainebleau.
Le commandant s'écria, secouant la tête.
Oui, oui, vraiment. Ah, vous êtes très fort, Martin Huma.
Martin Huma sursauta à ce mot.
Encore?
S'écria-t-il.
Encore? Depuis que nous sommes là, contre tout droit des gens, vous nous parlez de Martin Huma. En quoi ça peut-il nous intéresser?
Est-ce que c'est pour nous raconter des histoires de brigands ou des aventures de détectives que vous nous avez conduits ici, que vous nous gardez sur ce banc et que vous essayez de nous casser les jambes?
Franchement, si c'est une farce d'atelier, une blague de rapin, elle est longue et du plus mauvais goût. Il faut que ça finisse.
Le commandant laissa parler Martin Huma, puis il dit
« Il ne tient qu'à vous que ce que vous appelez une farce, une blague, finisse tout de suite.
Comment cela ?»
Écrivez pour la mise en liberté de nos compagnons. »
Martin Huma, de nouveau, vivement, répliqua
« Mais encore une fois, pourquoi voulez-vous qu'on tienne compte de ma lettre ?»
La signature de Martin Huma n'a donc plus de valeur chez les magistrats ?
Martin Huma cria « Mais je ne suis pas Martin Huma !»
Prosper avec lui répéta « Nous ne sommes pas Martin Huma !»
« Ni Prosper ?»« Ni Prosper, non, ni l'un ni l'autre !»
Un éclat de rire général accueillit cette double déclaration.
Martin Huma reprit alors avec une fureur croissante « Vous nous parlez avec insistance de ce Martin Huma. Je vous ai dit que nous ne le connaissons pas.
Vraiment ?
Oui.
Pas même de nom ?
De nom, si.
Ah, c'est déjà un commencement d'aveu.
Nous connaissons ses exploits. Nous avons lu quelques récits de ses aventures. Mais c'est tout.
Peut-être en connaissez-vous un peu plus ?
Ce que nous savons de lui, c'est ce que tout le monde peut connaître. Ce qui a été lancé dans le public. Il est donc parfaitement inutile de vouloir nous en faire dire plus que nous ne pouvons le faire.
Cependant, il faudra que vous parliez quand même.
Vous avez le moyen, nous le voyons, de nous faire parler, en nous suppliciant, parbleu. Nous avouerons, nous dirons tout ce que vous voudrez nous faire dire. Dans la douleur, rien ne coûte moins que le mensonge, mais à quoi cela vous servira-t-il?
Nous le saurons après.
Vous serez bien avancé, quand en nous torturant, vous nous aurez forcé de déclarer que nous connaissons Martin Huma et Prosper.
Le commandant répliqua, je ne m'en tiendrai pas là.
Jusqu'où irez-vous?
Jusqu'à ce que vous reconnaissiez enfin que vous êtes bien Martin Huma et Prosper.
« Non !»
s'écria Martin Huma.
« Non ! Je me demande si vous plaisantez. »
« Pas le moins du monde. »
« Alors vous êtes fou ?»
Le commandant cessa tout à coup de répondre sur le ton léger que depuis un moment il tenait en discutant avec ses prisonniers.
D'une voix brève, impérieuse, il cria
« Assez !»
« Je m'étonne de voir un homme intelligent comme vous croire qu'il peut, dans les conditions où vous êtes, espérer tromper et rouler un homme comme moi. »
Martin Huma répliqua. « J'ai dit la vérité. Croyez-la ou non, je ne puis dire autre chose. »
« Vous n'êtes pas Martin Huma ? » ?»«
Non. »
« Vous n'êtes pas Prosper ? » ?»«
Non. »
Le commandant dit encore. « Vous êtes Martin Huma ? Vous êtes Prosper. Nous en trouverons la preuve sur vous-même. »«
Bon, » fit Martin Huma.
« Fouillez-nous. Prenez nos portefeuilles. Vous y trouverez, outre nos cartes de visite, nos quittances de loyer, notre carte du salon, des lettres qui vous donneront notre nom, notre adresse. Cela vous suffira, peut-être ?
Non ?
Ce n'est pas de ces preuves qu'il me faut. Rien de plus facile que de louer un appartement, de se faire adresser des lettres. Nous savons aussi bien que vous comment se créer un alibi.
Alors, ce que je veux, c'est la preuve qui est sur vous-même, sur votre corps, que votre peau va nous montrer.
Je ne comprends plus.
Martin Huma. Vous êtes généralement rasé comme Prosper. Cela vous est d'ailleurs, comme aux acteurs, indispensable pour vos diverses transformations, pour jouer, comme en ce moment, vos personnages multiples. Vous portez donc, ainsi que votre lieutenant, une fausse barbe. Des postiches que je proclame admirablement confectionnées. C'est à s'y méprendre.
Je crois bien, s'écria Martin Dumas. On se tromperait à bien moins, ils sont vrais.
Sous ces postiches, nous allons retrouver votre figure habituelle, votre véritable physionomie. Il fit un signe à l'un de ses hommes. Le bandit s'approcha de Martin Dumas. Il tira sur la barbe assez violemment. Et Martin Dumas se mit à pousser de nouveaux cris de douleur. Une touffe de poils demeura au doigt du bandit, et au bout de ces poils, quelques lambeaux de peau et des gouttelettes de sang. Le bandit se tourna alors vers le commandant. Avec étonnement, il dit « Mais c'est une barbe vraie !»
Le commandant quitta sa place, fit le tour de la table et vint auprès de Martin Dumas qui gardait sa main sur sa joue endommagée.
« Quand je vous dis, fit le roi des détectives, quand je vous dis que ce ne sont pas des postiches, mais bien du vrai !»
Le commandant à son tour tira sur la barbe de Martin Dumas, mais alors plus doucement. L'étudiant, l'examinant bien, constatant que chaque poil tenait à la peau et qu'aucun postiche, si admirable qu'il fût, ne pouvait être de cette perfection.
Quand même, dit le commandant, quand même, nous avons le moyen de contrôler l'identité du roi des détectives.
Martin Dumas reçut, boulevard Saint-Michel, un coup de poignard dans le dos. La blessure fut assez sérieuse, puisqu'elle le mit dans l'obligation de prendre un long repos. Elle doit avoir laissé une cicatrice. Défaites-lui ses vêtements. Mettez à nu ses épaules, son dos. Nous trouverons bien la marque du coup de poignard. Alors, malgré sa barbe de peintre, malgré ses protestations, il ne pourra plus nier, et nous fournira bien mieux, comme je le disais, avec son corps, la preuve de son identité, la preuve qu'il est bien Martin Dumas. L'homme défit rapidement les vêtements du prisonnier. Il ouvrit son gilet, détacha le col de sa chemise, la rabattit sur ses épaules, puis comme cela ne dégageait pas suffisamment le dos, il enleva le tout. Le torse de Martin Dumas apparut aux yeux de tous en pleine lumière. Torse bien établi, bien musclé et d'une blancheur de peau remarquable. Le commandant se pencha sur ce dos d'homme, jeune, robuste et en pleine force, en pleine santé. Sur le dos du roi des détectives, il ne put relever la moindre cicatrice. Le commandant n'en pouvait croire ses yeux. Il regardait ses épaules, il les examinait, sans apercevoir quand même la moindre trace du coup de poignard, la plus petite cicatrice. « Et cependant, disait-il, cependant, la blessure est trop grave, trop récente, pour n'avoir pas laissé de marque. » En même temps que lui, ces hommes se penchaient sur les épaules de Martin Dumas et regardaient. Comme lui, tous demeurèrent stupéfaits. Le commandant, cependant, ne voulait pas s'en tenir là. « Il faut voir, dit-il, il faut mieux examiner. » Il posa ses mains sur les omoplates du roi des détectives. Il toucha la peau, la palpa, la plissa dans ses doigts. Même il gratta avec ses ongles pour le cas où Martin Dumas aurait revêtu ses épaules d'un enduit quelconque, d'une couche de cire, ou les aurait recouvertes de gutta-percha flexible, imitant la peau et recouvrant la blessure. Le commandant ne réfléchissait pas en faisant cela. Il ne se rendait pas compte de l'invraisemblance de ses suppositions. En effet, Martin Dumas n'avait aucune raison pour garder dans la vie. Dans le courant de la journée, un appareil quelconque qui lui couvrait les épaules. À quoi bon maquiller ses omoplates? Pourquoi cacher une cicatrice qu'on ne pouvait voir? Et qui, par conséquent, ne lui faisait pas courir le risque d'être reconnu malgré son déguisement de peintre? En admettant que Martin Dumas ne fût pas d'ordinaire porteur de ce singulier appareil, et qu'il l'eût aujourd'hui, pour cela, pour ce fait spécial, il eût fallu que Martin Dumas eût le pressentiment qu'il serait arrêté par ses ennemis, et que ce qui lui arrivait à présent devait fatalement arriver. Mais dans ce cas, ou alors nous connaîtrions fort mal notre héros, dans ce cas, si Martin Dumas savait par avance qu'il serait pris par ses ennemis, il ne se serait pas amusé à se maquiller les épaules, il aurait tout bonnement trouvé le moyen de ne pas être pris. C'était de beaucoup le plus simple, le plus sage. Le commandant, dans son émoi, ne pensait pas à cela. Maintenant, nerveusement, il tirait la peau des épaules de Martin Dumas. Il allait même jusqu'à en arracher des parcelles avec ses ongles. La peau devenait rouge sous ses doigts, et un peu de sang commençait à perler.
« Aïe !» criait Martin Dumas. « Aïe ! Vous me faites mal !»
Le commandant, au bout d'un moment, après de nouvelles épreuves, sans se soucier des cris du patient, fut forcé de se rendre à l'évidence. Il s'écarta de Martin Huma et de Prosper, à qui, pendant ce temps, on avait également fait subir l'épreuve de la barbe et des cheveux, à qui, comme à son chef, on avait arraché une touffe de poils pour bien s'assurer qu'il n'était pas postiche.
« Ce n'est pas Martin Huma, »
dit le commandant, avec autant de désappointement que de rage.
« Ce n'est pas Martin Huma, ce n'est pas Prosper. »
Ainsi s'achève « Le tueur de mannequins », tome 4 de Martin Huma, le roi des détectives, par Léon Sazy,